Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur.
La non-binarité me pose un problème. Pas, on s'en doute, parce qu'elle suppose qu'un être sexué s'interroge sur la part de masculin et de féminin qu'il accueille en lui. Pas non plus, parce qu'elle assume qu'on ne se trouve jamais ni totalement d'un côté, ni totalement de l'autre. Au contraire. Non, elle me pose problème parce qu'elle situe le questionnement par rapport à la binarité plutôt que par rapport à la complexité. Et par conséquent, parce qu'elle implique, par sa formulation, que la binarité est première. Je comprends ce qui est mis en cause dans la sexuation binaire. Je comprends qu'il y ait là une réflexion d'une grande richesse à ne pas se déclarer tout du côté homme ou tout du côté femme. Lacan, qui définissait la femme comme « pas toute », semble avoir ouvert ce chemin et on pourrait se réjouir que ce « pas toute », ce féminin de la pensée, fasse son chemin. Le féminin, c'est la préférence donnée au « et » sur le « ou ». Or, il suffit de voir la haine qu'ont les masculinistes pour un « et » qui soit inclusif et non pas accumulatif, pour être convaincu du bien fondé d'une pensée autre. La pensée masculiniste n'est au fond rien d'autre qu'une pensée peu sûre d'elle qui a besoin que les vaches soient bien gardées, les hommes tout du côté du masculin, les femmes tout du côté du féminin, sans d'ailleurs jamais venir interroger les stéréotypes construits par une époque. On doit étouffer dans une représentation aussi simpliste, même. C'est sans doute rassurant pour qui a besoin de certitude et de la représentation d'un monde qui soit figé. Problème, le vivant est précisément ce qui n'est pas figé. Pour contrer ce tout petit souci qui transforme les êtres vivants que nous sommes en objets, les masculinistes ont un remède. L'agitation. Faire, faire, faire. Drill, drill, drill. Remède qui a l'immense avantage de la cohérence puisque, se voulant tout du côté du masculin, les masculinistes ont le culte de l'action. Problème, en confondant les hommes et le masculin, il ne fait pas un pli pour eux que le rôle assigné aux femmes est la passivité. Recevoir l'homme en son sexe, les enfants en son ventre, les amis en son foyer, et la pensée de ceux qui pensent, les hommes donc, en son esprit. Or, on peut au contraire penser qu'à partir de cette distinction radicale, homme ou femme, tous les jeux sont possibles. C'est à partir de cette étrangeté des sexes l'un à l'autre que peut exister une fracture. Et cette fracture entre les sexes indique d'emblée la nécessité d'un langage et d'une pensée. On ne pense jamais à partir de l'identité, on pense et on parle à partir de l'écart. On parle parce qu'il y a des mots et du silence. On articule parce qu'il y a des voyelles et des consonnes. Et les grammairiens s'accordent pour dire que le Y est à la fois consonne et voyelle. Libre à chacun, à partir de cet écart, d'être bavard ou taiseux. Ce n'est qu'une question de goût, d'histoire, de multiples éléments qui, certes, ne nous laissent pas toujours le choix, mais ouvrent la possibilité de la complexité. Comme se reconnaître homme ou femme, plus ou moins homme, plus ou moins femme, homme plutôt comme ci que comme ça, femme plutôt comme ci que comme ça, homme et femme vivant, changeant, en équilibre précaire, en quête, en déséquilibre de funambule. Or, brandir la catégorie du non-binaire, c'est se situer sur le terrain de la binarité, partir de là. Ce qui malheureusement tend peut-être de plus en plus à être le cas et probablement sous l'influence exponentielle d'un monde qui se polarise de plus en plus. On est pour ou contre, c'est ok ou pas ok, on est en colère ou triste ou reconnaissant. Règne du « ou ». Pas moyen d'être à la fois pour et contre. Pour à certaines conditions. Pas moyen d'aimer et, dans le même mouvement, d'être triste. Non. Oui ou non. Homme ou femme. Pour ou contre. Un peu comme si, au lieu du droit de vote, on n'avait plus le droit qu'au référendum. Quoi, c'est déjà le cas? Bon, d'accord. Un peu comme si, à la place des dissertations, on proposait aux élèves de remplir des QCM. Ah, oui, c'est déjà le cas. Un peu comme si on remplaçait la construction d'un savoir qui agence objectivité et subjectivité par une accumulation d'informations. Ok, j'ai rien dit. Bon. Un peu comme si on devait toujours choisir son camp, coincé dans un entonnoir qui mimerait continuellement une pensée déductive, une pensée paranoïaque en somme, un système, une mécanique. Bref, une pensée qui ressemblerait à de la pensée et qui n'en serait qu'une assez géniale et funeste imitation. Et de fait, je me demande si ce n'est pas exactement comme cela que pensent les hommes aujourd'hui un peu partout au pouvoir. Et lorsque je dis « hommes », c'est parce qu'ils sont notoirement plus nombreux au pouvoir. Mais je n'exclus nullement que des êtres de sexe féminin puissent penser pareil. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. On pourrait aussi le dire comme ça. Ça ne date pas d'hier, mais de Rabelais, qui mit ces mots dans une lettre qu'il fit adresser par Gargantua à son fils Pantagruel. Seulement aujourd'hui, que l'État est à peu près partout au service de l'économie, on n'a plus tellement de garde-fous. Et c'est pour cela que l'expression non-binaire me pose problème, parce qu'elle s'inscrit dans la logique de la binarité avant de la mettre en question. Parce qu'elle nous inscrit dans une logique de chiffres, parce qu'elle déploie son exigence de singularité sous la bannière de la série, parce qu'elle ne questionne pas la catégorie de la binarité mais la renforce, alors même qu'elle voudrait la contester. Il y a bien d'autres mots pour dire ce refus d'être coincé dans la binarité. Complexité, nuance, dialogue, démocratie, ambivalence, poésie, inventivité. Oui, il y a bien des histoires à raconter pour s'élever contre la fin de l'histoire. Oui, il y a bien des humanités à cultiver et à chérir pour que n'advienne pas la fin de l'humanité. Oui, il y a bien des façons de dire « et » pour que le « ou » ne s'impose pas à nous de façon dictatoriale. Accepter l'ambivalence d'un amour qui subsiste même lors d'une séparation. Aimer en Brigitte Bardot la femme libre et détester la femme d'extrême droite. Admirer la langue du voyage au bout de la nuit et vomir les pamphlets antisémites du même Céline. Aimer l'incertitude d'un suspens. Choisir un « en même temps » qui ne soit pas le maquillage hypocrite d'une politique d'extrême libéralisme, mais la possibilité de nos identités multiples et fondamentalement instables. Choisir l'aventure de la rencontre toujours à inventer plutôt que l'identification à des catégories mortifères. Trouver sa liberté dans la polysémie et l'ambivalence d'un langage qui nous maîtrise bien plus que nous ne le maîtrisons. Parce qu'on parle à partir de sa subjectivité, et qu'en parlant, on dit toujours mal, toujours à peu près, et qu'on ouvre la voie à des malentendus qui relancent à l'infini la nécessité de la parole. Et c'est probablement ce fantasme du mot de la fin. D'un mot qui viendrait enfin apaiser notre angoisse d'être incomplet, d'être ou homme ou femme, cette angoisse de ne pas être déterminée une fois pour toutes par son sexe, sa religion, son histoire, mais de l'être tout de même un peu. Oui, c'est peut-être ce fantasme que nous avons en nous que le mystère de notre existence est une réponse, qui nous trouve à ce point prêt à renoncer à notre humaine condition pour nous ranger avec une docilité d'esclave dans des catégories. Nous en avons toujours eu le désir et le besoin. Il a toujours nourri les appétits des puissants et servi la construction de sociétés inégalitaires. Mais nous savons aussi comment faire autrement. Être de langage, nous savons comment articuler non seulement les contraires, mais les incomparables. Nous sommes ce peuple humain d'un « et » qui n'accumule pas, mais qui nous creuse. Nous sommes le peuple humain d'un « et » qui ne mime pas les richesses sans goût d'un paradis artificiel, mais qui sait qu'il peut inventer des paradis perdus pour puiser dans sa mélancolie le puissant bonheur d'être, tout de même, en vie. Et pour que ce dialogue existe, pour que l'ambivalence déploie son infinie richesse, il est nécessaire que préexiste un écart. C'est à maintenir cet écart, tout en vivant l'aventure de la rencontre, que nous passons notre humaine existence. I've got big balls, I've got big balls.